Nous lirons ce matin deux extraits du livre de la Genèse. Tout d'abord au chapitre 12, les versets 1 à 9, puis au chapitre 13, les versets 14 à 16. L'Éternel dit à Abraham : Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme, Sarai, et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit : C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Négev. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. » En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Ensemble, prions.
Dieu notre Père, nous nous réjouissons de cette nouvelle année d'éducation biblique qui commence, où nous allons apprendre à te découvrir et à te suivre.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes que tu nous confies. Que chacun, chacune se sente écouté, accompagné, respecté dans sa démarche et sa recherche. Que chacun et chacune se sente responsable de l'engagement fidèle de sa présence aux différentes rencontres. Que l'Évangile reste pour chacun, chacune, une parole que toujours l'on propose, mais que jamais l'on impose.
Dieu notre Père, toi qui nous appelles au ministère de moniteur, monitrice, catéchète pour cette année 2019-2020, Nous te remercions de nous confier la tâche d'instruire les jeunes de notre Église dans la connaissance de Jésus-Christ et de les préparer à répondre de l'espérance qui est en lui. Nous te prions de renouveler notre fidélité à notre formation, d'élargir nos connaissances et notre enseignement, et nous te demandons de renouveler notre foi afin d'être auprès des enfants comme auprès des jeunes les témoins de l'Évangile que tu attends.
Nous te prions pour les parents, les grands-parents de tous ces enfants, afin que tu les accompagnes dans leur vie quotidienne, leurs engagements familiaux et associatifs, dans leur travail et dans leur foi. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs. Que ta parole, vivifiée par ton esprit, rejoigne la leur, qu'elle parle au cœur comme à l'intelligence de celles et ceux qui leur sont confiés. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, je vous invite à prendre le cantique numéro 392, dont nous chanterons les strophes 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vous invite à vous lever. Nous allons laisser les enfants de l'école biblique partir pour mieux les rejoindre tout à l'heure.
Thank you.
Amis, frères et sœurs, aujourd'hui est donc un dimanche un peu différent des autres, puisque c'est le dimanche dit de la rentrée de l'éducation biblique. Et donc tous les jeunes de notre Église, des tout-petits aux catéchumènes, font donc leur rentrée. Et cette année, le thème retenu pour toutes ces rencontres avec les enfants, c'est celui de la vocation. Nous découvrirons chaque mois dans la Bible un récit de vocation avec des personnages de référence du Premier Testament, comme Abraham, Moïse ou Noé ou encore Samuel, pour n'en citer que quelques-uns. Non seulement ces personnages sont des références bibliques, mais ils sont aussi des points de repère dans le temps. Mais surtout, ils sont des exemples de croyants. J'aurais envie de dire des croyants rassurants, parce que tous ces personnages ne sont pas parfaits, loin de là, on le découvrira petit à petit, mais ce sont des chercheurs de Dieu qui sont devenus des croyants, qui ont trouvé, entre guillemets, Dieu chacun à leur manière. Et c'est leur expérience de Dieu qui est racontée dans la Bible. Leur cheminement peut être aussi le nôtre. Chaque comportement de ces hommes et du peuple qui les accompagne de génération en génération ont quelque chose à nous dire pour notre foi aujourd'hui, qu'elle soit profonde ou vacillante, ancienne ou balbutiante. Ce qui est raconté dans les pages de la Bible, malgré le temps qui nous sépare du moment où ces récits ont été écrits, reste d'une actualité, je dirais, extraordinaire pour nous aujourd'hui. Ce sont des récits de vie et de foi qui peuvent nous rejoindre là où nous en sommes, tels que nous sommes. Nous sommes donc invités à lire le récit de la vocation d'Abraham et invités à le découvrir ou à le redécouvrir. Avec ce récit, nous nous rappelons que le peuple d'Israël, pas encore constitué comme tel, est un peuple de nomades et de marcheurs. Alors nous avons parlé de vocation et ce mot de vocation peut impressionner. En effet, chaque fois que nous entendons ce mot, on a l'impression que la religion n'est jamais très loin. Et c'est vrai, d'une certaine façon, si on s'arrête à la définition première de ce mot, en tant que mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Mais il ne faut pas oublier les autres définitions de ce mot. La vocation, c'est aussi un penchant particulier pour un genre de vie, non religieuse pour autant. Un penchant pour un certain type d'activité, comme avoir une vocation pour tel ou tel métier, ou avoir une vocation d'artiste. Alors, de quelle vocation s'agit-il pour Abraham ? Dieu lui dit de quitter son pays d'origine, après Ur en Chaldée qui se situe dans le pays de l'Irak d'aujourd'hui, installé à Charan avec toute sa tribu, Abraham reçoit un appel pour se rendre encore en Canaan sur une terre nouvelle, un pays inconnu. L'histoire d'Abraham est particulière. Ce personnage est présent dans la tradition juive, la tradition chrétienne et la tradition musulmane. Et pour ces trois religions monothéistes, cet homme est l'exemple même de la foi absolue en Dieu qu'il ne discute pas, qu'il ne remet pas en cause. Beaucoup plus tard, dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, dont on ignore qui l'a écrite, l'auteur de cette lettre a bien compris la relation qui existe entre Abraham et Dieu. Et il écrit ceci : « Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit, ne sachant où il allait. » Voilà la vocation d'Abraham. Il est appelé à la foi. C'est un récit important qui mérite notre attention parce qu'il raconte le début de l'aventure de la foi. On pourrait dire, au commencement de la relation entre l'homme et Dieu, il y a la foi d'Abraham. Et nous pouvons remarquer qu'Abraham ne dit rien. Il obéit, non pas en parlant, mais en se mettant en route. Mais au fond, ce qui est un véritable exemple de foi, c'est qu'Abraham accueille le projet de Dieu dans sa vie au fur et à mesure qu'il avance. L'histoire d'Abraham, qui deviendra plus tard Abraham, commence au chapitre 12 du livre de la Genèse. Mais au chapitre 11, il y a l'histoire de la tour de Babel. Cette tour que les hommes ont construite dans la folie des grandeurs pour se faire un nom. Les hommes veulent devenir les égaux de Dieu. Ils veulent s'assurer, disons, un accès au ciel, on va dire. Mais au fond, c'est une entreprise collective et totalitaire, un seul peuple, une seule langue, une seule race. Les hommes veulent tout niveler et supprimer les différences, la diversité et par voie de conséquence, la liberté des peuples. Mais ce projet ne voit pas le jour. Le texte dit que Dieu descend lui-même mettre le désordre. Il disperse les hommes sur la terre avec un handicap supplémentaire. Il les empêche aussi de se comprendre. Alors les hommes deviennent des nomades à la recherche de ce qu'ils ont perdu. Et c'est finalement à Abraham que Dieu promet un nom et une descendance. C'est peut-être d'une certaine façon une nouvelle étape de la création du monde. Après les origines de l'humanité concentrée sur 11 chapitres dans toute la Bible, c'est par un homme et sa famille que Dieu choisit de se faire connaître, de se révéler au monde. C'est là un nouveau commencement. Ce qui est intéressant de constater, c'est que Dieu ne donne pas tout de suite satisfaction à Abraham, en ce sens qu'il lui fait une grande promesse qui va avoir besoin de temps pour se réaliser. Marcher vers un pays inconnu, dont on ne sait pas si c'est loin ou non. Faire d'Abraham une grande nation alors qu'il est seul à être appelé. Et le vertige d'une descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre ou un peu plus loin, ou les étoiles du ciel. Tout cela va prendre du temps, beaucoup de temps, tellement de temps qu'Abraham devra attendre sa propre vieillesse et surtout la vieillesse de sa femme Sarai pour voir naître contre toute espérance l'enfant de la promesse, Isaac. Mais entre-temps, un autre enfant, Ismaël, sera né d'une autre femme, Agar. Mais les deux fils auront chacun leur mission et leur bénédiction. Lorsque nous lisons ce récit de la vocation d'Abraham, c'est de remarquer comment Dieu dit à Abraham et aussi d'observer l'attitude d'Abraham. Sur un appel très sobre de Dieu que je traduirais volontiers par l'intuition spirituelle, intérieure, intime d'Abraham, cet homme s'en va, il abandonne sa patrie mais aussi son clan, ce qui est un geste inouï. Quand on sait que l'individu à cette époque n'existe que par l'appartenance à sa communauté. Mais il ne part pas entièrement seul, puisque sa femme, son neveu et les serviteurs partent aussi avec lui. En partant, il se coupe de son passé. En quittant le territoire familial, Abraham devient solidaire de toutes les nations auxquelles il transmettra la bénédiction de Dieu que Dieu lui promet, ainsi qu'à sa descendance. Toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Sa personne contient une bénédiction pour le monde entier, elle-même contenue quelques chapitres plus loin dans le nom d'Abraham, Dieu ayant changé son nom, et Abraham voulant dire père d'une multitude. ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Cela fait mince comme feuille de route. Mais Abraham entre dans l'aventure de la foi, c'est-à-dire de la confiance absolue en acceptant la promesse absurde d'avoir une descendance alors qu'il est déjà âgé. Le texte nous dit qu'il avait 75 ans quand il est parti. Ici, la foi, c'est un chemin qui débute par la rupture. Rupture avec ce qui est connu, avec ce qu'il sait, pour découvrir l'inconnu, la nouveauté et l'inattendu. Il découvrira tout en route. Il faut juste marcher dans la confiance chevillée au corps. En hébreu, la parole que Dieu adresse à Abraham est celle-ci. Va, lève-toi, va pour toi-même hors de ton pays. Va pour toi-même. Ou encore, va vers toi. Le départ vers une terre inconnue n'est pas que géographique. C'est aussi l'occasion d'un voyage intérieur. Va vers la terre que je te montrerai, mais va à la découverte de toi-même. Tu cherches à donner un sens à ta vie, alors c'est en marchant que tu le trouveras et que tu te trouveras toi-même. C'est en avançant que tu trouveras ta vraie personnalité, que tu découvriras qui tu es vraiment. Abraham quitte sa famille, je dirais sa mère, le lieu de sa naissance, son père, le lieu de son enfance. Au fur et à mesure qu'il avance, alors qu'il pourrait se perdre, en fait, il se trouve. Et dans son voyage, il comprend que son identité ne se trouve pas derrière lui, dans sa naissance, sa nationalité ou son territoire, mais qu'elle est devant lui, un pas après l'autre, en marchant dans le désert, c'est-à-dire vers l'inconnu et en même temps l'inquiétant. Très vite, après son départ, Abraham s'arrête à Sichem. Il y trouvera la famine. Il ne peut pas s'y installer tout de suite. Il poursuit sa marche jusqu'en Égypte. Si on peut comprendre la marche d'Abraham comme une quête de soi-même, un chemin pour se découvrir, le texte biblique nous indique que le chemin sera plus long que prévu. Il devra encore attendre 25 ans pour que s'accomplisse la promesse d'une postérité. Sa patience est mise à l'épreuve. Un peuple doit naître de sa foi, mais il n'en verra pas les fruits. Et ce sont ses descendants qui finalement seront les propriétaires en droit du pays de Canaan. Si parfois notre route nous paraît longue et difficile, nous pouvons toujours nous dire qu'Abraham nous a précédés déjà sur ce chemin. Parce que c'est la route de la vie, de la liberté, de l'autonomie. Et au fond, on ne finit jamais de la parcourir. Lorsque nous lisons ce récit de cette vocation d'Abraham, on a l'impression que la réponse d'Abraham est immédiate. Il fait confiance, il part, il ne sait pas où il va, mais la confiance qu'il fait à Dieu lui permet de découvrir les signes de sa présence tout au long de la route. Et malgré sa confiance absolue, cela n'empêchera pas Abraham d'avoir ses épreuves. Alors, qu'est-ce que promet Dieu à Abraham ? Un pays alors qu'il quitte le sien ? Une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou les grains de sable de la mer, alors que sa femme ne peut pas avoir d'enfant, et d'être une bénédiction pour tous les peuples. Comment se réalisera cette promesse ? Par la confiance et par l'alliance. De la confiance, impatiente d'abord, naîtra d'abord Ismaël, ayant pour maman Agar. Puis de la confiance inlassablement réitéré, naîtra Isaac ayant pour maman Sarah. Ismaël devient l'ancêtre des musulmans. Plus tard, Mahomet sera le prophète de la révélation du Coran. Isaac deviendra l'ancêtre des Juifs et encore plus tard, Jésus naîtra de cette descendance. Certains le reconnaîtront comme étant le Messie ou le Christ. Et sa parole mettra en route des millions d'hommes et sera à l'origine de nombreuses vocations. C'est pourquoi Abraham sera appelé plus tard le père des croyants, juifs, chrétiens et musulmans. Et c'est pourquoi aujourd'hui, grâce à Abraham, nous sommes invités au dialogue interreligieux avec les juifs et les musulmans. Parce que l'humanité est diverse et plurielle et que nous sommes appelés à vivre ensemble les uns avec les autres. Mais cette promesse se réalise aussi avec un autre mot, c'est le mot « alliance ». Fondamental pour décrire la relation de Dieu avec son peuple. Et c'est peut-être en cela que cette notion de Dieu dans la Bible se différencie des autres notions de Dieu au pluriel. Le Dieu du début de la Genèse aurait pu tout diriger du ciel ou rester indifférent au sort de la terre. En devenant le Dieu d'Abraham, il choisit une autre solution, celle de l'alliance qui induit la notion de collaboration entre Dieu et l'être humain. Dans la Bible, Dieu choisit de faire de l'être humain un partenaire pour construire une histoire. Dieu sera le Dieu d'Abraham, puis d'Isaac, puis de Jacob, puis de Moïse, puis des prophètes. Chaque génération fera la découverte de Dieu, dont elle parlera avec ses mots personnels, suscités par la nouvelle relation qui s'instaure. Et plus on avancera dans le temps et dans l'histoire spirituelle des hommes, selon la Bible, plus la part de l'être humain deviendra importante. Alors, je partage avec vous une question qu'un enfant de l'école biblique m'a un jour posée. Qu'est-ce qui serait passé si Abraham n'était pas parti? Est-ce qu'il était libre? Petit silence. Si Abraham n'était pas parti, sa vie n'aurait jamais changé. Et il n'y aurait pas eu cette histoire. Et peut-être même pas l'histoire de Dieu avec les hommes. Ou alors elle se serait écrite autrement. Mais pour ma part, moi je pense qu'Abraham était libre, soit de rester, soit de partir. Mais ici, Dieu ouvre un avenir à Abraham. D'ailleurs, l'appel qu'il lui lance n'est pas accompagné de remontrances, de conditions ou de menaces. Donc Abraham fait le choix de partir librement. Parce qu'il fait le choix de la confiance absolue à partir de cet avenir. Et à partir vers cet avenir, à première vue irréalisable. Et c'est cela qui en fait sa vocation. Amis, frères et sœurs, cette vocation continue aujourd'hui parce que des hommes et des femmes quittent leur sécurité. Non seulement pour s'aventurer sur le chemin de la foi, mais aussi pour changer de vie. Pour partir à la découverte de leur vie à eux et à la découverte d'eux-mêmes. Ils reçoivent leur vocation qui leur est lancée par la parole d'un autre qui les rejoint là où ils en sont, tels qu'ils sont. Ils prennent un jour pour eux une parole, certes d'autrefois, mais qui n'a pas pris une ride, qui donne sens à leur vie et qui oriente leur marche. Et à travers cette parole, ils découvrent une présence qui ne les quitte plus. Cette parole est aujourd'hui à portée de chacune de nos vies. Toi aussi, quitte ton pays et va vers toi-même. Tu n'es pas seul, le Seigneur part avec toi. Alors, à nous de la saisir, cette parole, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de ce qui nous reste à vivre. Autrement dit, c'est aujourd'hui que tout commence. Alors je vous souhaite une très joyeuse rentrée à chacun et à chacune. Amen.